Il était une fois.
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 Alors que Roland et ses braves se préparent à l'assaut, les armées de Marsile approchent de Roncevaux. Déjà on les distingue, toujours plus nombreuses, déferlant des collines et des montagnes environnantes. Olivier, tu disais vrai, jamais je n'ai vu autant d'ennemis assemblés. Pour l'or de l'émir, Ganelon nous a trahis. Vendons chèrement notre vie. Les Français se serrent autour de lui, et Turpin, le prêtre, du haut d'un rocher, prêche et les bénit tous. Ses paroles se transmettent dans la foule des guerriers agenouillés. Et c'est comme si un vent fort parcourait leur cœur, allant de l'un à l'autre, scellant déjà leur destin à tous. Maintenant, ils peuvent mourir dans les combats. Leur âme ira en paradis. À peine les dernières paroles données, Roland est monté sur son cheval. Il brandit Durandal, sa bonne épée. « Seigneur baron, dit-il, c'est pour la mort que les païens sont venus nous attaquer. Soyons preux et vaillants, que nos bras ne faiblissent pas et que notre courage les fasse regretter ce jour. Ainsi, nos noms ne seront pas oubliés. » Mais voici déjà les Sarrasins, farouches et braves eux aussi, qui arrivent à portée de voix. Le neveu de Marsile rit des mots de Roland. « Ah, félon, bien folle est votre roi qui vous a laissé en arrière. France y perdra son honneur, et Charles tous ses preux. » Roland, pâlissant de colère, s'élance l'épée à la main, et d'un seul coup abat son adversaire. « Voyez, le premier coup est à nous, » hurle-t-il alors que l'épouvantable mêlée commence. « Hardi chevalier, c'est le signe que la victoire nous appartient. » Hélas, les armées sarrasines sont nombreuses et fraîches. La première, à grand-peine, est pourtant repoussée. Mais derrière elle en est une nouvelle, puis une troisième. Marsile, en personne, vient diriger les coups. Les Français font 1000 prouesses. Les ennemis les plus valeureux tombent devant eux. Ils sont à 1 contre 20 et ne reculent pas d'un pouce. Mais à grande douleur, ils achètent cette gloire. Chacun voit près de lui tomber son frère, son ami. Jamais ils ne reverront la France, ni leur village, ni les femmes et les enfants qui pleurent au loin sur eux, et ils ne reverront plus le roi qui là-bas les attend. Pendant que ces hommes se battent avec courage, de l'autre côté des Pyrénées apparaissent d'étranges événements, tels qu'on n'en avait jamais vu. Des ouragans dévastent le pays, partout la terre tremble et les tempêtes font rage. De Saint-Michel jusqu'à Sens, de Besançon jusqu'à Ouessant, la foudre tombe sur les maisons, réduit en poudre les granges, enflamme les champs et terrasse les châteaux. Les ténèbres envahissent le ciel, où les éclairs seuls illuminent le sol ravagé. Partout, on s'effraie de si mauvais présages, et on croit voir venir la fin du monde. Nul ne connaît la vérité. Le ciel est en deuil pour la mort du preux Roland. À Roncevaux, les cadavres s'amoncellent. Des survivants, combien sont encore sains et saufs? Combien ont encore leurs chevaux et leurs armes? Pour un Français mort, 20, 50, 100 païens ont rendu l'âme. Marsile est 5 fois revenu à la charge. 5 fois il recula. Mais à la longue, les meilleurs chevaliers ont péri. Seuls une 60aine sont encore debout. Devant cet effroyable massacre, Roland, fatigué, se tourne vers son compagnon. « Olivier, mon ami, vois tous ces hommes blessés à mort à nos pieds. Que ne t'ai-je écouté? Si Charles était auprès de nous, nous serions déjà vainqueurs. Je vais sonner du cor. Le roi l'entendra et il viendra nous secourir. » La voix d'Olivier semble brisée. Il parle tout en donnant les coups qui le sauvent de la mort. « Ce serait lâcheté que de sonner de l'olifant, » répond-il. « Quand je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas entendu. Si tant de Francs sont morts, à vous en est la faute, à vous et votre orgueil. Maintenant le temps a passé, il nous faudra mourir et notre beau pays en sera honni. » Turpin, le prêtre, encore debout malgré une blessure profonde au visage, accourt vers Roland et, le prenant par le bras, le dégage de la mêlée. « Certes, il est trop tard, nous mourrons ici. Pourtant, sonnez maintenant. Si le roi vient, il nous vengera et la douce France ne perdra pas son honneur. Nos amis iront nous enterrer en terre sacrée et ce sera un doux repos pour nous qui avons tant lutté. Seigneur Roland, sonnez de l'olifant. » Et donc Roland porte son corps à la bouche. De tout son souffle, il sonne. Désespérément, il sonne. Il sonne jusqu'à ce que sa salive se transforme en sang. Et même encore, il sonne. L'écho des monts répète à l'infini son appel. Et les Français, là-bas dans les vallées lointaines, entendent le son du corps avec toute sa détresse. Et Charles l'entend aussi. C'est le corps de Roland. Il n'a pourtant jamais sonné. Mon neveu est trahi et les félons l'attaquent. Mais le lâche Ganelon, qui chevauche à ses côtés, retient la main du roi. Sire, Roland a trop d'orgueil pour sonner ainsi. Vit-on jamais votre neveu appelé à l'aide? Sans doute chasse-t-il dans les monts d'Espagne, voilà tout. Et Roland continue de sonner. Le sang lui sort de la bouche, jaillit de ses oreilles. Il lui semble que sa tête éclate. Pourtant il sonne toujours. Charles entend le son, et tous les chevaliers avec lui. Ganelon a beau dire, il faut voler à son secours. Vite, il fait rebrousser chemin à son armée et part au galop accompagné de ses plus fidèles compagnons. Mais une pensée le travaille. Si Roland a été attaqué, c'est donc qu'il fut trahi. Mais par qui? C'est Ganelon qui a traité avec Marsile. C'est Ganelon qui a conseillé de laisser Roland à l'arrière. Ganelon, qui depuis longtemps jalouse le courage et la jeunesse de Roland. Ganelon est le traître. À cette pensée, Charles entre dans une grande colère. Il décide sur le champ de châtier le traître. Mais le temps presse. Déjà, le son du corps n'est plus qu'un murmure. Les Francs chevauchent avec ardeur. Roland sera-t-il encore vivant ? Tous plaignent les hommes restés à l'arrière-garde et se lamentent sur leur funèbre sort. Hélas, il est trop tard et c'est peine perdue. À Roncevaux, le combat continue. Marsile, avec plusieurs milliers d'hommes, est forcé de reculer, puis de fuir en déroute devant les quelques chevaliers français encore en vie. Mais des renforts lui permettent de se reformer une fois de plus. Roland comprend alors que son heure est venue. Auprès de lui, seul respire encore Olivier, Turpin et Gautier, un loyal baron. Chacun a rassemblé sous ses ordres une dizaine de soldats, tout au plus. Les autres ont fui ou sont au sol inertes. Voilà donc les 40 Français qui se rassemblent une dernière fois. Sans trembler, sans reculer, ils regardent les Sarrasins déferler sur eux. Le choc est brutal. Olivier, le premier, se sent blessé mortellement. Il a juste le temps de tuer son assaillant avant de tomber à terre. Mais Dieu, quelle douleur en éprouve Roland! Au milieu des combats, il presse son ami contre son torse. Et tous deux prient une dernière fois le Seigneur et bénissent la France et Charles, son futur empereur. Puis tout d'un coup, sa tête retombe. Olivier est mort. Roland sent les larmes couler le long de ses joues. Il pousse un cri déchirant et se lamente. Les yeux embués, il regarde autour de lui. Gautier, le loyal baron, est mort lui aussi. Turpin continue de se battre, mais son sang coule toujours plus abondamment de sa tête. Et des soldats, il n'en reste plus qu'une poignée, luttant chacun contre 20, 30, 50, 100 ennemis. Alors, il serre une nouvelle fois son corps d'ivoire, et d'un dernier souffle, il sonne. Charles, à l'entendre, sait que Roland est au bout de ses forces. Il chevauche plus vite encore, s'il peut, et fait sonner tous ses clairons, toutes ses trompettes, battre tous ses tambours. Pour faire entendre à tous que la France arrive pour sauver ses fils. À ce terrible bruit, Marsile veut faire sonner la retraite. Mais il voit Roland toujours debout sur la pile des cadavres. Aucun trait ne l'a atteint. Alors, sur lui et sur Turpin, il ordonne qu'on décharge toutes les lances et toutes les flèches restantes. Et cela fait, il ordonne d'abandonner la place. Voyant les Sarrasins reculer, Turpin lance un cri joyeux vers les cieux. Mais avant la fin de son cri, il tombe, face contre terre, vidé de son sang. Roland est seul désormais. Il est resté debout, mais il sait que sa mort approche. Déjà son regard se trouble, ses jambes faiblissent et il a du mal à rester debout. Par ses oreilles, il sent que son cerveau s'échappe. Il prend d'une main son corps, de l'autre son épée et monte sur une hauteur d'où il domine la sombre vallée. Ses yeux voilés lui cachent le triste décor des hommes, français comme Sarrasins, morts courageusement ce jour-là. Dans un dernier geste, il cherche à briser sa fidèle épée du Randal. Il frappe la terre avec rage, l'acier grince mais ne cède pas. Faudra-t-il que la blanche et belle du Randal tombe aux mains de l'ennemi? Il s'évertue à la briser. Il frappe sur un énorme rocher. Durandal est intact, et le rocher se fend. Puisqu'une arme si sainte ne peut être rompue, Roland la plaint dans son cœur. Et sentant la mort s'immiscer en lui, il va se coucher contre un pin. Sa face est tournée vers l'Espagne, et il tient encore fermement son corps d'olifant et sa noble épée. Il sait qu'il a fini son temps. Il se frappe la poitrine, s'avoue coupable, et implore le pardon pour ses péchés, à commencer par l'orgueil qui a conduit à la mort de tant de preux aujourd'hui. Et c'est les mains jointes qu'il expire. Charles et son armée accourent à grande hâte. Les voilà qui arrivent à Roncevaux. Partout où leur regard se pose, ils voient les cadavres de ceux qui furent leurs compagnons, leurs frères. Qui d'entre eux n'en serait pas affecté? Charles se lamente plus que personne. Il a perdu son neveu tant aimé, il a perdu ses 12 pères, il a perdu la fleur de sa chevalerie. Quand les Français relèvent la tête après avoir tant versé de larmes, ils voient à 2 lieues devant eux les Sarrasins qui s'enfuient. Alors, sans un mot, dans un même mouvement, la chevauchée reprend. Les montures suent à grandes gouttes de l'effort accompli, mais ne relâchent pas leur fougue. Les Francs atteignent leurs ennemis, les frappent, les massacrent et se vengent 100 fois de leur perte. Quand Marsile, enfin, tombe face contre terre, il n'est plus un seul de ses guerriers à pouvoir se vanter d'être debout. Fou a-t-il été de suivre un traître, et bien cher a-t-il payé cette erreur. Du preux Roland et de ses courageux compagnons, la mort est bien vengée. Alors, seulement, le soleil se coucha sur Roncevaux.